tous et à toutes. Dans le cadre de la Semaine L à Blois, qui se tient jusqu'au 24 mars, nous poursuivons dans la lorgnette un cycle d'émissions consacré à la question des droits des femmes et de l'égalité entre les genres. Et malheureusement, quand il y a de la violence, peu de chances de trouver une once d'égalité. C'est vrai, à une échelle nationale ou internationale, les rapports de force déséquilibrés étant l'une des bases des conflits armés, mais c'est évidemment valable aussi à l'échelle d'un couple ou d'une famille. C'est donc au sujet des violences intrafamiliales que nous nous intéressons aujourd'hui. Qu'elles soient physiques évidemment, mais aussi sexuelles ou psychologiques, la violence dans le cadre resserré de ce qui doit être un havre de paix et d'épanouissement se trouve être un endroit de souffrance et de détresse. Les chiffres, nous le verrons, sont alarmants, mais les outils et les structures existent et doivent pouvoir être contactés et sollicités. Et l'État, dans tout ça, notre système démocratique, est le premier garant de notre liberté et de notre épanouissement. Quelles actions et quelles méthodes pour garantir à chacun, et surtout chacune, on le verra, dans le cadre de la liberté et de l'égalité. Bienvenue à tous et à toutes dans la lorgnette. Bienvenue à mes invités, donc nombreux autour de cette table dans le studio de Studios F en direct aujourd'hui. Émilie Denescher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commandante à la MPF, donc Maison de Protection des Familles, située à Romorantin. On reviendra évidemment sur le rôle de cette structure nouvellement créée, je crois, assez récente, dans le cadre de cette, au long de cette émission. Vous êtes accompagnée du gendarme enquêteur Stéphane Bénard, bonjour.
Bonjour.
Et puis à vos côtés, il y a également deux membres de l'association France Victimes 41, Sébastien Acli, bonjour, vous êtes juriste.
Bonjour, exactement.
Et Edith Delion, coordinatrice donc de France Victimes 41, bonjour à vous.
Bonjour.
On va donc parler des violences intrafamiliales qui regroupent, j'imagine, un panel assez large de violences donc, dans tous les sens du terme. On va d'abord définir ce que sont les violences intrafamiliales. J'ai lu, moi, en préparant cette émission, qu'elle recouvrait quatre genres, on va dire, que sont les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles et également, j'imagine, aussi dans une moindre mesure pour vous, les violences économiques. Est-ce qu'on peut revenir sur une définition succincte de ces quatre types de violences exercées dans le champ familial?
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs types de violences, comme vous les avez dit. Au sein du cercle familial, on a une personne qui domine, hein, qui a le rôle de dominant et qui exerce justement cette domination, soit par des violences verbales, insultes, intimidations, qui peuvent aussi devenir des violences psychologiques. Et également les violences physiques, celles qui sont le plus faciles entre guillemets à détecter parce qu'elles se voient. On a aussi les violences sexuelles qui, là, ces derniers temps, ressortent un peu plus dans nos procédures parce que libération de la parole, parce que prise de conscience sur notamment cette histoire de devoir conjugal qui n'existe pas, bien sûr. Donc certaines femmes comprennent qu'effectivement, ce qu'elles vivent, c'est pas normal. Donc ça s'apparente à des violences sexuelles. Mais en général, au sein de la sphère familiale, on a toujours un dominant et un ou des dominés, parce qu'il n'y a pas que la femme qui peut être victime, il y a aussi les enfants. Au travers ce que les enfants voient à la maison. Le mis en cause qui exerce ces différentes violences sur la victime, les enfants le voient. Donc ça cause forcément un traumatisme.
Quand on parle aussi de violence, alors j'ai en creusant aussi, il y a des rapports qu'on va pouvoir évoquer au long de cette émission. On parle évidemment de violence conjugale, mais également de violence non conjugale. On pourra revenir sur ce que ça inclut. J'imagine les viols et les incestes qui sont aussi, catégorisés dans ces violences intrafamiliales. C'est quoi une violence non conjugale? J'ai appris qu'il existait ce terme, non?
Alors vous m'apprenez ce terme de violence non conjugale. Alors peut-être violence conjugale donc au sein du couple, pour moi c'est ça. Ouais. Violence non conjugale, eh bien, on va avoir au sein de la sphère familiale la violence d'un parent sur un enfant par exemple, ou d'un enfant sur un parent. Ça c'est aussi apparenté à des violences qui, pour moi, peuvent être violences non conjugales.
Et ça regroupe toutes les violences intrafamiliales.
Ça marche. J'ai vu un rapport du ministère de l'Intérieur qui parlait de violences non conjugales. Je ne connaissais pas ce terme, donc ça marche. Je vois qu'on est tous sur un pied d'égalité. Est-ce qu'on peut, évidemment, donc maintenant qu'on a remis un peu de définition dans tous ces termes, parler de vos structures respectives et de ce qu'on vient y chercher, de quel accueil on peut bénéficier? Je vais commencer par la Maison de Protection des Familles de la Gendarmerie.
Ok. Suite au Grenelle sur les violences conjugales en 2019, la gendarmerie a décidé de réagir et de de créer des maisons de protection des familles dans chaque département. Donc chaque département dispose d'une maison de protection des familles qui est en charge de lutter contre, entre autres, les violences intrafamiliales. Donc on a plusieurs missions.
C'est un service dédié de la gendarmerie, c'est ça.
C'est exactement ça. C'est une unité spécialisée. Donc nous, à Romorantin, donc nous représentons tout le Loir-et-Cher et nous sommes basés à Romorantin. Notre unité, elle est constituée de 4 militaires, 2 hommes, 2 femmes, tous spécialistes. Donc on a des qualifications. Donc mon camarade, le gendarme Bénard, et moi-même, nous sommes experts en mécanismes violence intrafamiliale. Je suis... enquêtrice spécialisée dans les auditions de mineurs victimes et formatrice relais crime de haine. Et mon camarade Stéphane, lui, il est également formateur relais
anti-drogue.
Voilà.
J'imagine, oui, parce qu'il y a aussi des mécanismes d'addiction et de domination, d'oppression qui rentrent en compte. Sans rentrer évidemment dans les détails, qu'est-ce qu'on vient y chercher? Qui sont les publics, j'imagine, majoritairement des femmes qui viennent? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Quel accueil on trouve à la MPF? Quel accompagnement peut-on bénéficier?
Alors, il faut savoir qu'on a déjà 4 missions qui sont la prévention, pour commencer, ce qui est une grosse partie de notre travail. Donc prévention notamment en milieu scolaire sur différentes thématiques, prévention auprès des seniors, auprès des personnes en situation de handicap et auprès des professionnels aussi également, notamment dans le sujet des violences intrafamiliales. On a informé 2 cycles de formation d'élèves aides-soignantes sur la prise en charge des violences conjugales. Donc on fait cette prévention-là. Ensuite, on fait de l'appui judiciaire auprès de nos camarades, c'est-à-dire que on peut apporter notre concours lors d'auditions de victimes de violences intrafamiliales, tout en sachant que le Loir-et-Cher dispose de 2 cellules dédiées, donc une à Blois et une à Romorantin, qui gère tout le contentieux aux violences intrafamiliales.
C'est plus, moins, le Loir-et-Cher est mieux doté que certains autres départements?
Alors,
il y a une vraie volonté sur le sujet ici?
Certains départements ne disposent pas du tout de cellules. D'accord. C'est une volonté, effectivement, du département de Loir-et-Cher de créer ces cellules dédiées.
Okay.
Donc, ce sont des militaires expérimentés qui reçoivent, qui s'occupent des procédures de l'audition de la victime jusqu'à la prise en charge du mis en cause.
C'est donc plutôt une bonne nouvelle à l'échelle locale.
Ah oui,
c'est
une très très bonne nouvelle.
Très bien. Voilà. Troisième axe pour poursuivre.
Donc voilà, troisième axe, donc c'est la protection, c'est-à-dire qu'on travaille avec un intervenant social, Monsieur Bredon, qui est un travailleur social détaché au profit des gendarmes de Loir-et-Cher et qui, lui, reçoit en entretien des personnes, notamment victimes de violences intrafamiliales, qui lui ont été adressées par nos camarades du terrain suite à une intervention, par des associations ou par nous. Si on a connaissance d'une situation particulière qui ne relève pas d'une infraction à la loi pénale, mais qui est du domaine du social, on réoriente cette personne vers notre intervenant social. Et la dernière mission, c'est la coordination. Ce sont des réunions de préparation, d'actions de prévention, des réunions avec nos partenaires, pour mettre en place des choses, justement, dans ce domaine.
On passe à la présentation de France Victime 41 et de son rôle, évidemment. Ouais, vous avez le soleil dans les yeux, c'est pas la bonne heure, c'est pas la bonne saison en ce moment quand il fait ce temps-là dans le studio.
Bon, France Victime 41 est donc une association départementale, donc un service d'aide aux victimes qui a pour mission justement d'accueillir, d'informer et d'accompagner sur 2 plans toutes les personnes victimes d'infractions pénales. Dans ces personnes victimes d'infractions pénales, nous avons justement ce contentieux des violences conjugales et des femmes victimes de violences. Nous en recevons de plus en plus. Donc notre mission, c'est de les accompagner, je vous le disais, sur 2 plans, à la fois le juridico-judiciaire et le psychologique, le soutien psychologique. Notre équipe est constituée de 3 personnes, 3 et demi, on va dire, donc 2 juristes, dont moi-même et mon collègue qui va qui intervient à mes côtés, Monsieur Akli, et puis une psychologue. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler aussi de l'interaction entre, j'ai cru comprendre que vous connaissiez la MPF et puis France Victimes, est-ce qu'on peut parler de l'interaction, de l'interconnexion qu'il y a entre une structure, on va dire, étative, représentée par la gendarmerie, et puis vous êtes une association, France Victimes, donc comment se déroule, j'ai envie de dire, le parcours d'une victime qui viendrait taper à votre porte d'abord ou à la porte de la gendarmerie, comment on peut détailler un petit peu ce parcours-là qui commence.
Alors, on va prendre par exemple une victime qui va se présenter à la gendarmerie ou à l'issue d'une intervention, peu importe. Elle va être prise en charge par un camarade. Elle va être auditionnée sur ce qui se passe, sur ce qu'elle vit. En fonction de ce qui s'est passé, elle peut être vue par un psychologue pour justement... Comme je le disais tout à l'heure, les violences physiques, on sait les voir, mais les violences psychologiques, c'est très compliqué à déceler. Et un entretien avec un psychologue, ça permet de voir le retentissement psychologique de ces violences sur la victime. Donc une fois que la partie victime est faite, bien évidemment, on s'occupe de l'auteur, hein, qui doit répondre de ses actes, expliquer ses comportements. Et puis, après, on a aussi un rôle, justement, d'accompagnement. C'est-à-dire que notre victime, on ne va pas la laisser repartir comme ça sans lui dire ce qui existe, justement. Il existe, France Victime, et elle sait que France Victime est là, et que si elle a des questions pour, justement, l'après-procédure, ce qui n'est plus notre rôle, elle peut être, justement, renseignée par France Victime.
Vous êtes, ça va plus souvent dans ce sens-là que dans l'autre, mm-mm. Edith ?
Alors, pas forcément.
D'accord.
Justement. En tant que nous, service d'accueil et d'écoute, mm-hmm. on reçoit quelquefois des personnes pour lesquelles le dépôt de plainte n'est pas encore acté.
Ouais.
Voilà, et pas encore complètement conscientisé.
Ouais.
Donc, dès lors, nous, notre travail, ça va être un peu de d'accompagner à la plainte. Et là,
c'est la MPF qui reprend.
Les services de gendarmerie général, selon les lieux. Mais pour le coup, notre partenariat est très bon parce qu'on va justement pouvoir accompagner de façon très individualisée, à la fois nous, notre service, mais vers les services, les forces de l'ordre, que ce soit commissariat ou gendarmerie, pour que le dépôt de plainte, quand la personne est prête à le faire, soit fait dans les meilleures conditions possibles. On va prendre contact pour qu'un rendez-vous soit pris avec les gendarmes qui sont formés, enfin qui sont dédiés. Et comme on se connaît quand même un peu, ça facilite aussi
les rapports. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être mentionner d'autres associations, d'autres structures qui permettent d'accompagner ou de guider dans le cadre de violences intrafamiliales des personnes victimes vers les services de gendarmerie ou vers France Victimes? Est-ce que vous avez, vous aussi, à France Victimes, un parcours en amont? Est-ce qu'il y a un parcours en amont avant parfois d'arriver chez vous?
Aujourd'hui, on a tout un partenariat avec les services sociaux, beaucoup, pareillement avec les intervenants sociaux en police gendarmerie, qui font que les professionnels et les autres acteurs viennent aussi vers nous. Enfin, aujourd'hui, il y a un réseau qui est quand même assez de partenariats sur le département du Loir-et-Cher qui est assez bien maillé. Et donc, on se contacte assez facilement.
Tous les acteurs sont bien identifiés se connaissent bien. Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose, Élise ?
Oui, alors dans ce partenariat, on a aussi un partenariat, nous, essentiel, comme la gendarmerie. Chez nous, c'est le parquet. Qui nous saisit. Et on a une démarche proactive d'aller contacter la victime, des fois. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on arrive à avoir les victimes. On a une réquisition du parquet et on fait des évaluations à la demande du parquet. On évalue la situation de la victime, sa personnalité, sa vulnérabilité. On voit avec elle si elle a besoin d'interdiction de contact, une éviction du conjoint violent du domicile. On voit pas mal de petites choses, plus quelques petites mesures de protection. Et on renvoie tout ça au parquet qui décide... éventuellement avec d'autres magistrats, des mesures à prendre. Voilà comment aussi la victime vient chez nous. C'est-à-dire c'est nous qui allons l'aborder, qui allons la contacter à la demande du parquet.
Edith, vous vouliez rajouter
Mais souvent, à un moment, justement, où une situation est un peu en cours de procédure dans les gendarmeries dont il s'agit, du secteur où...
Le maillage y se fait.
Voilà. Ouais. Donc, du coup, les gendarmes sont en train de s'occuper de l'auteur et nous, on est requis pour s'occuper un peu de la victime et effectivement, voir tous ensemble quelle va être la meilleure réponse à donner. On vient aussi éclairer un peu le parquet sur les suites, sur les poursuites qui vont être prises par le procureur, justement.
Est-ce qu'on peut rappeler, peut-être qu'on le refera aussi en fin d'émission, mais ça ne me semble jamais être assez, les dispositifs pour contacter la gendarmerie, déposer plainte, les numéros de téléphone, les SMS, les modalités pour signaler un problème, une souffrance?
La gendarmerie, déjà, inévitablement le 17.
C'est toujours bien de le rappeler.
Il y a également aussi, ce qui est très bien, c'est une application, Ma Sécurité.
Il me semblait qu'il y avait une application.
C'est ça, il y a l'application Ma Sécurité, voilà, sur laquelle il y a un chat 24-24, ouais. Okay. 7 jours sur 7. En fonction de l'endroit où on se trouve, c'est soit un policier ou un gendarme qui va répondre, et n'importe quand, et sur n'importe quelle thématique. Alors, c'est basé sur l'anonymat. Maintenant, en tant que gendarme, si on est face à des faits graves, parce que tout peut être révélé à travers ce chat, il y a une traçabilité. Maintenant, le gendarme qui est derrière son ordinateur va, en présence de faits vraiment graves, va faire en sorte que la personne, elle soit identifiée malgré tout, parce que c'est notre travail de venir en aide aux gens. Donc, on ne peut pas laisser des situations comme ça. Mais en général, ouais, voilà, nos victimes, hein, peu importe, quelle heure, de l'heure du jour ou de la nuit, elles peuvent échanger avec quelqu'un derrière sur quelque chose qu'elles vivent chez elles.
Comment, au sein de la maison de protection des familles, est organisé le parcours, l'accompagnement des victimes, une femme et une mère de famille avec un foyer comprenant des enfants, quel accompagnement va être donné à la femme et aux enfants? Enfin, la question est valable aussi évidemment pour France Victimes, parce qu'on parle beaucoup des femmes qui sont souvent celles qui portent plainte, plus que des enfants mineurs qui n'ont pas forcément connaissance du dispositif. Quel accompagnement va se mettre en place, et notamment pour les enfants aussi à la suite d'un dépôt de plainte par une femme, par une mère de famille?
Alors déjà, nous, il faut savoir qu'à la MPF, on n'est pas comme une brigade de gendarmerie classique. On n'a pas d'accueil au public. Donc comme je disais tout à l'heure, nous sommes quatre et notre compétence est départementale. Avec toutes nos autres missions annexes, on n'a pas d'accueil. Quoi qu'il en soit, les victimes qui nous sont orientées le sont soit par le Point Justice à Romeaux, par exemple, ou le CIDFF à Blois. Les personnes, elles nous sont orientées et voilà comment ça fonctionne. Nos coordonnées leur sont données, elles prennent attache avec nous et on fixe un rendez-vous en fonction de leur disponibilité. C'est nous qui nous rendons disponibles et on se déplace. Une victime qui n'est pas véhiculée, ce n'est pas un problème pour nous. On fait du aller-vers. On va à la rencontre des victimes. Donc, si elle peut venir à Romorantin, la MPF, elle vient. C'est chaleureux. En fait, nous sommes gendarmes, mais on ne travaille pas dans une gendarmerie. Donc, ça ne ressemble pas à...
Ça joue, j'imagine,
dans
le recueil de la parole.
La libération de la parole, tout à fait. Donc, on écoute ce qu'elle a à nous dire. Elle sait qu'on a tout notre temps, que le téléphone ne va pas sonner et qu'on est entièrement à sa disposition et à celle de ses enfants, puisqu'il y a un espace dédié pour les enfants. On écoute son récit. S'il y a une infraction à la loi pénale, si elle se sent bien avec nous, on poursuit, on fait l'audition à la MPF parce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire la procédure. Si on lui propose quand même de poursuivre avec la cellule violence intrafamiliale, par exemple, si elle dit je veux poursuivre avec eux, elle est orientée tout de suite vers nos camarades qui la prennent en charge immédiatement et la procédure se poursuit. Si on est sur ce genre de fait, c'est comme ça que ça se passe. L'audition est faite directement, ça n'attend pas, c'est tout de suite parce qu'on sait très bien que si c'est pas tout de suite, elle ne reviendra pas. Donc on fait tout de suite. Et pour les enfants, eh bien, ma foi, c'est en fonction du climat familial. S'il y a des violences sur les enfants, eh bien, ils sont entendus aussi sur ces violences. Donc, et après, le mise en cause est entendu également. Et ensuite, c'est tout ce qui est c'est le volet judiciaire. Maintenant, si on est face à des faits où il n'y a pas d'infraction à la loi pénale, on ne va pas pour autant mettre la personne dehors parce qu'elle a quand même une problématique. auxquelles elle ne peut pas répondre. Mmh. Et donc, nous, étant gendarmes, on n'a pas réponse forcément à tout ce qui concerne le volet social. C'est pour ça qu'on fait appel à notre intervenant social. Et pareil, on lui demande, bien évidemment, on ne va pas faire d'initiative. On lui explique qu'il existe et quelles sont ses missions. Et si elle accepte d'être mise en relation avec lui, eh ben on donne les coordonnées de cette personne à l'intervenant social qui, lui, va prendre attache avec elle. Et pareil, il va se déplacer si elle n'est pas véhiculée, la victime.
Edith ou Sébastien, hein, quelque chose à rajouter sur l'accompagnement, notamment aussi des femmes et des enfants au sein de votre structure ?
Alors, nous, l'accompagnement... Il se fait, on va dire...
Plus près du micro, Sébastien, s'il vous plaît, merci.
Je dis, l'accompagnement, il se fait, je veux dire, un peu en binôme, quelque ouais. part. On a un accompagnement juridique. Nous-mêmes, juristes, on donne des informations juridiques aux victimes. On les accompagne au procès. D'ailleurs, on fait des permanences le jour des audiences devant le tribunal correctionnel. Là, je parle dans le cadre de toutes les victimes, pas que les victimes de violences intrafamiliales. Donc on les accompagne au niveau juridique, mais on les accompagne aussi au niveau psychologique. On fait une prise en charge psy par le biais de notre collègue psychologue, qui intervient aux besoins de la victime. Hein. C'est un service gratuit, je le précise quand même. C'est confidentiel et il peut y avoir... un suivi au long cours pour une prise en charge optimale.
On va faire une... Allez-y, Edith.
Juste pour rajouter que sur évidemment. Le plan justement des femmes victimes de violences, effectivement, on a la prise en charge des femmes sur le plan psy, mais aussi des enfants qui souvent ont été témoins des violences dans le cercle familial et qui sont aujourd'hui considérés comme victimes également. Ils n'ont pas forcément été touchés physiquement, ils n'ont pas forcément
être témoin. Mais quand on parle d'enfant, être témoin, c'est être victime.
Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, il faut considérer qu'un enfant témoin, c'est un enfant victime.
Mais même au niveau de la loi, c'est une partie civile maintenant à une audience.
Sur le plan de la répression de l'auteur, c'est qu'une circonstance aggravante des violences conjugales en présence de mineurs, c'est une circonstance aggravante. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que les enfants, c'est un véritable traumatisme pour eux d'être témoins de violence d'un parent sur l'autre parent.
Et on le comprend aisément. On va faire une pause musicale et on se retrouve dans 4 minutes pour continuer à évoquer ce sujet. A tout de suite.
C'était un samedi soir, avec mon mec on n'avait pas d'histoire. Il m'a dit bébé viens voir, on va faire un petit tour au square. Pas de problème, j'étais partante, tous les deux on s'aime, tous les deux on cède et on kiffe une relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien. Mais peu importe, on était bien, donc viens, ce fameux soir et on se promène. On ira loin, je te le promets, je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps, je devais froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé? Dis-moi t'as un souci. Ça sentait le roussi mais moi je connais, je suis resté. Il m'a dit tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester. Mais bébé je fais du rap, j'aime ce que je fais aussi des potes. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Moi je me doutais que sur moi il lèverait la main. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop en mer. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Je crois qu'on s'aimait trop au même. Putain, si j'avais su, crois-moi, je serais bien loin. J'étais perdu, en panique sur le trottoir. Je voulais rentrer, pas d'RER, 1h du mat, il est trop tard. Il me dit, tu restes avec moi, c'est rien, ça va passer. Une minute après, j'ai juste senti mes côtes se casser. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse, puis en baisse. Il m'a relevé, m'a embrouillé, puis m'a dit ferme ta gueule Mélanie et dis à ta mère que tu rentres mardi. Les mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude en tenant son volant. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Fermez les yeux, baissez la tête, c'est tout ce que j'ai su faire. L'amour aveugle, mais j'ai tout vu, c'était écrit. Malheureusement j'avais pas tout lu, j'ai eu mal et j'ai rien dit. Il m'a menacé de mort, j'étais bloqué, j'avais peur mais je crois que j'ai eu tort. Quand t'as mal tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et t'encaisses. J'avais mal et j'ai rien dit, j'ai eu peur et j'ai souffert. Durant 6 mois, j'ai endurer, j'ai pris des coups sans rien dire, en me promettant que s'il recommençait, bien j'allais partir. Mais à chaque fois c'était la même, j'avais trop peur qu'il me tue, trop peur de lui, de ses faits et gestes, peur d'être battu. Il avait réussi à me faire croire que rien ne l'arrêterait, ni la police, ni ma mère, ni mon espoir. Pourtant y'a pas de sérum, maintenant je le sais, y'a pas de sérum pour effacer toutes ces traces qu'il m'a laissées. C'est en rentrant mardi avec du sang sur mon visage que ma mère a composé le 17 pour un témoignage.
Appelez les pompiers.
Mais tu sais pas, toi, comme ça fait mal quand l'homme donne. Je te parle de grosses blessures, pas de petites éraflures au gomme-col. Depuis quand la mort c'est un point, une béguille à chasser. Depuis quand tu me tapes et tu me demandes d'effacer. Depuis ça j'ai bégayé, Dieu rendez-moi, Dieu voulait dégainer. Mais seul Dieu est juge, donc Dieu m'en soit témoin. C'est quand j'ai dit je t'aime que là j'ai découvert ce que ça faisait de se prendre des coups. Les cicatrices et la bouche ouverte. Ça fait 4 ans mais j'oublie pas. Je m'endors avec ça, je me lève avec ça. Ça fait mal. Comprends que je puisse plus donner du cœur. Comprends que je puisse plus donner du cœur. J'avais trop peur qu'il me tue, trop peur qu'il me tue. Comprends que je puisse plus donner du cœur.
C'était Diams, évidemment, vous l'aurez reconnu avec le titre « Ma souffrance ». On va parler donc toujours avec la brigade de gendarmerie de la maison de protection des familles située à Romorantin et puis l'association France Victimes 41, donc on parle des violences intrafamiliales. On va parler de la difficulté de parler des chiffres. Je m'appuie sur un article du site internet d'information Les Jours. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la presse indépendante. Depuis 2007, la délégation aux victimes DAV, une unité rattachée au ministère de l'Intérieur, rend un rapport annuel sur les morts violentes au sein du couple, publié aux alentours de l'été. Il donne le nombre précis des féminicides conjugaux survenus l'année précédente. C'est le chiffre officiel, établi grâce aux données consolidées qui remontent des juridictions du pays aux gendarmes et policiers de membres de ce service particulier. Une méthode qui nécessite un travail de recherche et de recoupement qui s'étend sur plusieurs mois, nous font savoir les fonctionnaires de la DAF par mail. Ce travail minutieux fait office de juge de paix entre les différents décomptes, militants et médiatiques, et n'est depuis 17 ans pas contesté. Pourtant, dès ce 2 janvier, et sans attendre l'étude annuelle, le ministre de la Justice a annoncé qu'il y avait eu 94 féminicides en 2023, soit une baisse de 20% par rapport à 2022. Mais l'écart entre les 94 féminicides annoncés par Éric Dupond-Moretti et les décomptes militants ont encore provoqué l'ire des associations. En bousculant de nouveau le calendrier de la DAV, le ministre a relancé la bataille des chiffres désormais teintée de suspicion. Le collectif Féminicide par compagnon ou ex a dénombré 102 féminicides en 2023. En attendant les chiffres officiels, M. Dupond-Moretti se permet de supprimer quelques victimes, a fustigé le collectif sur X en dénonçant un coup de com'. L'inter-orga féminicide mis en place en 2023 et qui ne se cantonne pas aux féminicides conjugaux mais recense tous les meurtres de femmes en a comptabilisé 97 survenus dans le cadre du couple. Le chiffre du gouvernement est tout simplement faux, nous ne le prenons pas en compte, balaye auprès des jours une militante de l'association Nous Toutes. On voit qu'il y a énormément de batailles, de chiffres, de communication sur les chiffres. C'est très difficile de s'y retrouver. Comment, au final, on décompte un féminicide? Quels sont les mécanismes qui permettent de savoir si on a affaire à un féminicide ou pas?
Alors,
je vois que la question est...
Les chiffres, c'est assez... complexe, ouais. Et de les interpréter, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut aux chiffres. Donc je pense qu'il ne faut pas vraiment se cantonner à dire 70, 80, 90%, peu importe le chiffre. Une personne, ça sera toujours une personne de trop. Et quand bien même il y ait des victimes, il faut surtout s'axer sur le fait qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait moins. C'est surtout ça en fait, quelles actions on a pour qu'il y ait moins de victimes. Oui, il y en a. Maintenant, on n'est pas à dire combien il y en a précisément, mais en tout cas, qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'il y en ait le moins possible ?
En attendant, donc un chiffre que personne ne pourra contester, celui-ci, il date de 2019, je pense que c'est le dernier qui fera affaire. En 2019, 44% des plaintes pour violences physiques ou sexuelles enregistrées par les services de sécurité concernent des violences commises au sein de la famille. Voilà, donc ça c'est un chiffre de l'INSEE, donc imparable. Donc on est quasiment à 1 sur 2. Donc on voit bien que les violences intrafamiliales sont ce qui compose la majeure partie des crimes et délits et des dépôts de plaintes au sein de la société française.
Oui, complètement. Ouais. De la même manière qu'on peut donner un chiffre général en disant que les femmes sont très majoritairement victimes. Après, les chiffres...
C'est à l'entour de 90%, en tout cas, 9
approximativement, voilà, c'est ça. Il ne faut pas se figer sur les chiffres. Quand on dit que les femmes sont victimes, on n'est pas figé sur le classique du couple homme-femme. Il faut aussi penser au couple homosexuel, qu'il soit deux hommes ou qu'il soit deux femmes. Mmh. Il faut prendre aussi les chiffres dans leur globalité. Mais oui, effectivement, les femmes, de manière plus générale, sont victimes.
Et le chiffre de l'INSEE, évidemment, se base sur 2019, qui est l'année du Grenelle de violences faites aux femmes, qui a sans doute impulsé aussi beaucoup de choses. Les maisons de protection familiale datent de cette époque-là aussi, plus ou moins ?
C'est ça. Avant, on avait une unité qui s'appelait la BPDJ, la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, qui faisait quasiment que de la prévention. Et il y en avait une, voire deux, par région. Voilà. Et c'est pour ça que la gendarmerie a décidé d'agir suite à ce Grenelle et de transformer ces BPDJ en maison de protection des familles et en créant une par département justement pour travailler sur la thématique.
Il y a
de la prévention, de la meilleure prise en charge et de l'accompagnement des victimes.
Il y a, on pourra pas le nier, sans vouloir faire le procès de la gendarmerie, beaucoup de défiance pardon, vis-à-vis de l'institution. On a beaucoup parlé de manque d'écoute, de féminicides survenus après des dépôts de plainte parfois. Comment l'institution est-elle en train de réagir ? J'imagine notamment par la création de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a aussi un vrai travail d'accompagnement et de réflexion autour de cet accueil, notamment, pour empêcher ce genre de choses.
Voilà, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas évoqué dans nos missions, mais effectivement, on a une grosse partie de formation interne. C'est-à-dire que nous, militaires de la Maison de Protection des Familles, on forme nos camarades, justement, à l'accueil, à la prise en charge et
pour
à l'accompagnement
ce genre de choses, j'imagine,
personnes victimes de violences conjugales. Voilà.
Vous parliez de prévention. Pardon, Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, je voulais juste réagir sur ce que vous venez de dire. En fait, la prise en charge des victimes, certes, au niveau pénal et tout, ça concerne la gendarmerie, mais je veux dire, une victime qui se manifeste, ça concerne tout le monde. Mmh. Et je trouve qu'on tape un peu trop facilement sur les gendarmes, les policiers ou autres, mais il y a des voisins, il y a de la famille, il y a plein de gens qui peuvent être au courant qu'une personne est victime de violences intrafamiliales ou autres, et ne réagit pas. Et on met tout de suite un peu le doigt sur les institutions en disant qu'ils ont rien fait ou autre. Mais tout le monde est concerné.
C'est un discours que vous avez pu entendre à France Victime 41, que je n'irai pas porter plainte à la gendarmerie parce que j'ai entendu dire qu'on ne prendra pas ma plainte en compte ou ce genre de choses.
Oui, oui, ça arrive. Et on fait
de
la...
C'est très rare,
de moins en moins.
Mais quand ça arrive, on fait une espèce de pédagogie autour de tout ça et on explique les tenants et les aboutissants d'un dépôt de plainte et de la nécessité d'un dépôt de plainte. Voilà, et tout ce qui s'ensuit derrière, quoi. Donc.
Vous parliez de... Oui, Lydie, pardon.
Pour revenir sur les chiffres et le nombre d'homicides, moi, je voudrais juste préciser. Alors, une première chose, c'est qu'aujourd'hui, on identifie des hommes qui sont victimes de violences conjugales.
Ça n'était pas le cas il y a 5 ans, 10 ans.
Ah non. Enfin, pour...
Non. Beaucoup moins.
Enfin, beaucoup moins. Et aujourd'hui, on identifie un peu plus, puisque nous-mêmes, on est en accompagnement de quelques situations où ce sont les hommes qui sont victimes. Et puis, la deuxième chose, c'est que je voudrais évoquer quand même ces femmes qui meurent non pas sous les coups, mais qui se suicident de par une situation de violence conjugale qui est beaucoup de la violence psychologique, voire avec un peu de physique des fois, mais ne serait-ce que de la violence psychologique, les rabaissements, les humiliations, etc. Des femmes qui tombent en dépression et qui finissent par... avoir effectivement dans un état dépressif qui les pousse au suicide, quoi.
Une quinquagénaire, merci pour la liaison. Toujours sur cet article du site Les Jours, une quinquagénaire, Odile Nasri, qui a mis fin à ses jours il y a 3 ans. Sa famille a déposé plainte contre son compagnon pour harcèlement moral par conjoint ayant conduit au suicide.
Absolument.
Infraction méconnue inscrite dans la loi en 2020. Est-ce qu'on peut en parler si vous voulez pour la MPF?
Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, les violences psychologiques,
et ces chiffres-là ne font pas partie évidemment des féminicides ne sont pas
c'est
pris en compte.
C'est très rare qu'on identifie ce genre de situation. Mmh. Là, c'est une situation où la famille a porté plainte. Moi, j'en ai une autre en tête. Mais après, de là, aller le prouver, c'est que, encore que plus difficile. Donc, et je pense qu'il y a, il y a une vraie zone d'ombre là. Sur ces situations-là.
Et un dernier chiffre, et ensuite on met ça de côté. Donc, selon le ministère de l'Intérieur, 759 femmes se sont suicidées ou ont tenté de le faire à la suite du harcèlement moral de leur conjoint en 2022, un chiffre qui a plus que triplé en 3 ans. Voilà. Je voulais parler de la prévention, on est aussi là pour ça. Donc, vous intervenez, la MPF, en collège, en lycée, peut-être même sur le premier degré. Qu'est-ce qui s'y dit? Quels sont les retours? Comment on parle de ces violences et des comportements toxiques, des mécanismes d'emprise aussi, peut-être, à des jeunes aujourd'hui?
Alors, moi, je laisserai Stéphane parler des jeunes. Moi, je vais juste parler des aides-soignantes qui ont été formés, informés, pardon. On leur a déjà dans un premier temps parlé du cycle de la violence, parce qu'avant de parler de violence conjugale, il faut comprendre les mécanismes justement de cette violence conjugale, comment ça arrive, pourquoi par exemple, je vais prendre une femme parce qu'on est sur des femmes, mais pourquoi une femme, elle va mettre entre guillemets autant de temps à venir déposer plainte, pourquoi elle n'est pas venue si tôt, voilà. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte qu'avant de juger, il faut comprendre. Donc déjà, on part là-dessus, sur la base, comprendre le cycle de la violence. Ensuite, on s'est adapté et on leur a parlé du repérage des violences dans le cadre de leur travail. C'est-à-dire que tous les symptômes qui peuvent alerter sur une situation de violence conjugale. Alors, c'est pas, faut pas tomber dans la psychose, mais par exemple, une femme qui va venir parce qu'elle fait une fausse couche ou pour des IVG répétées, ça va peut-être les alerter, parce qu'il faut savoir qu'en général, les violences commencent au début de la grossesse. Ça a été prouvé. Donc, on fait cette partie-là et puis ensuite, on les laisse réagir sur la thématique, et en général c'est enrichissant, parce qu'il y a aussi des situations personnelles qui reviennent et puis on discute ensemble, il y a un réel échange et c'est vraiment très intéressant. Donc après on fait aussi effectivement en milieu scolaire, donc collège, lycée et école primaire aussi.
Vous voulez en dire un mot, Stéphane?
Oui, la thématique principale, quand on parle des violences dans les établissements scolaires, c'est on va parler des violences sexuelles, et on va avoir un gros bloc sur le consentement. Mmh. Expliquer aux jeunes que, on pose la question, est-ce que la personne est d'accord, et aussi qu'elle a le droit de se rétracter, et qu'on doit respecter le dernier choix de la personne. On aborde le sujet du viol. Qu'est-ce qu'un viol? Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Un viol, c'est pas forcément une pénétration avec une partie sexuelle, je veux dire, utiliser un objet, utiliser un morceau de bois, un stylo, voilà, dès l'instant que l'objet pénètre la personne à son insu, c'est un viol. On explique aussi que lorsque la personne est alcoolisée, elle peut pas donner son consentement, lorsque la personne dort, voilà, donc c'est tout plein de situations que les jeunes, les adolescents sont confrontés au quotidien, mais ils n'ont pas forcément toutes les notions. Donc on est là pour leur expliquer dans quel contexte on peut, et surtout où sont les limites et à quel moment on ne peut plus.
Et il y a une vraie écoute de la part notamment des plus âgés, des jeunes, les lycéens. Il y a un vrai basculement qui est en train de s'opérer, vous le sentez?
Alors, de là à dire qu'on le sent, en tout cas, on voit qu'ils sont à l'écoute parce qu'ils apprennent des choses. Il y a beaucoup de choses.
Ça remet en question certains préjugés qui peuvent arriver du cercle familial, pour en revenir, évidemment.
Exactement. J'imagine. Le mot, vous l'avez dit, c'est les préjugés. Il y a énormément de préjugés sur plein de choses. Et il y a beaucoup de questions de leur part parce que, justement, ils arrivent avec des préjugés et on les met en évidence que, non, tout ne se fait pas.
Et la prévention, de toute façon, elle restera essentielle et il faut surtout ne jamais arrêter d'en faire. C'est sur le long terme qu'on voit les effets.
On peut supposer que ce sont des graines qu'on sème.
C'est exactement ça. Alors, on voit les effets sur le long terme, mais on sait quand on a réussi une prévention, c'est quand il y a certains jeunes qui viennent nous voir à la fin de la prévention, parce qu'ils savent qu'on va rester un peu, parce que discuter devant ses camarades de ce qui se passe à la maison, c'est pas l'idéal. Donc en aparté, après, ils viennent nous voir, nous expliquer ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire. Et là, on a un rôle d'orientation et de conseil.
Je sors un peu du cadre de la violence intrafamiliale, quoique, est-ce que à France Victime 41, vous avez, vous recevez des ados, notamment des filles, des jeunes filles, et quel est leur regard, est-ce quels sont les mots qu'ils peuvent poser sur des actes de viol, de violence au sein de leur famille, d'inceste aussi, on a très peu parlé de ce mot-là, qui est pourtant, j'imagine, clé dans les violences intrafamiliales.
Alors c'est plutôt la collègue psychologue qui va recevoir les jeunes et qui va recueillir leurs paroles. Nous, en première intention, on est plutôt à recevoir les parents qui ont connaissance de leur jeune qui a été victime dans un cadre ou dans un autre. Alors quand c'est dans le cadre intrafamilial, ça fait exploser aussi pas mal de choses. Parce que les parents, du coup, là pour le coup, ce sont aussi des victimes collatérales. C'est très violent, un parent dont l'enfant a été victime. Voilà.
Et je rebondis sur ça pour dire c'est les jeunes, ils viennent nous voir en fait, ils n'ont pas été déposés plainte ni rien. On a un super partenariat avec la maison des ados, ils vont souvent rencontrer la maison des ados, puis la maison des ados nous contacte derrière pour les prendre en charge.
Chaque semaine dans La Lorgnette, nous vous recommandons un podcast, une émission, un extrait de documentaire. Cette semaine, je vous propose un court extrait d'un reportage de la chaîne Public Sénat sur les violences conjugales en milieu rural.
La délégation aux droits des femmes du Sénat consacre un rapport à la situation des femmes en zone rurale. Une partie des travaux est consacrée aux violences conjugales. Marie-Pierre Monnier est l'une des 8 rapporteurs.
Plus d'un an après la clôture, le 25 novembre 2019, du Grenelle de lutte contre les violences, la question se pose de savoir si les territoires ruraux et leurs spécificités ont été suffisamment pris en compte et si la dynamique impulsée par le gouvernement est suffisante pour impacter durablement les politiques de lutte contre les violences en milieu rural.
Les femmes résidant en zone rurale sont moins représentées sur la ligne d'écoute nationale et lorsqu'elles appellent, elles décrivent des moyens de contrôle particuliers, par exemple l'interdiction d'utiliser le véhicule ou le contrôle du kilométrage.
Malgré tout, tout se sait et c'est un
ce qui m'a vraiment choquée dans cette table ronde-là, c'est le chiffre de 50% de féminicides en France qui ont lieu dans les territoires ruraux. Alors que c'est 31% de la population qui habite. Qu'au fond, ces violences, c'est un angle mort. Ça n'a pas été assez abordé et la spécificité des territoires ruraux n'a pas été prise en compte, entre autres dans les Grenelles. Ça pointe aussi un manque de moyens pour les femmes en zone rurale. Au fond, c'est une double violence.
Depuis qu'elle a été élue sénatrice de la Drôme en 2014, Marie-Pierre Monnier reçoit de nombreux témoignages de victimes de violences. Un phénomène dont elle ne soupçonnait pas l'ampleur sur son territoire.
Le fait que je me sois mobilisée là-dessus, ça a fait que petit à petit, j'ai été identifiée comme m'occupant de ce sujet de violences faites aux femmes sur mon territoire. Et donc, inévitablement, j'ai eu des tas d'appels à l'aide de certaines. Cette semaine, j'ai eu 4 contacts de 4 femmes que j'avais déjà rencontrées. Une, c'est un peu particulier, c'est une élue qui un jour, quand j'ai rencontré dans sa commune, m'a fait écouter un enregistrement en me disant « Est-ce que ça, pour vous, ça veut dire que cette femme est victime de violences ? Cette femme, c'était elle ?» Mais j'ai dit « Bien sûr ».
La sénatrice rencontre ce jour-là une victime qui a subi des violences pendant 16 ans. Sortir du silence dans un village de 60 habitants a été pour elle une épreuve. Le 8 mars dernier, Isabelle a pris la parole en public pour raconter son histoire.
Le 6 janvier 2020, j'ai porté plainte pour violence conjugale contre l'homme qui a été mon compagnon pendant 16 ans et qui est le père de mes 3 enfants.
Ça a été un grand moment pour moi parce que ça a été témoigné à visage découvert. Et en fait, après mon dépôt de plainte, j'ai entendu les oui-dire qui circulent en milieu rural du genre « Non mais tu te rends compte, elle a porté plainte, comment il va faire pour retrouver une nouvelle nana ?» Non mais tu te rends compte, c'est quand même le père de ses gamins. Et là je me suis dit, il y a un vrai problème.
Pardon, l'extrait a été un peu tronqué. Je voulais évidemment vous interroger tous autant que vous êtes autour de la table. Nous sommes un département rural, la maison de protection des familles est située dans une petite ville, Romorantin, donc j'imagine que la question, le contexte rural joue aussi beaucoup dans les contacts que vous avez avec les victimes et les personnes que vous rencontrez.
Oui, oui, énormément, et comme je le disais tout à l'heure, nous on se déplace, on travaille pour les victimes.
Ce qui joue beaucoup, j'imagine.
Voilà, donc on travaille pour les victimes, donc si une victime elle est pas véhiculée, ou si elle a des difficultés, ben on va aller à la rencontre de la victime. Maintenant, il faut savoir aussi que les plaintes, elles peuvent être prises en mobilité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être prises au domicile. Alors attention, parce que prendre une plainte de violence intrafamiliale dans un domicile, c'est juste pas possible non plus, quoi. Donc bon, après, il peut y avoir des lieux neutres. Peut-être qu'une maison, par exemple France Service ou ce genre de choses, ça peut être l'endroit le plus sécurisant pour entendre une victime de violence conjugale. Maintenant, il faut s'adapter à la victime.
Ce n'est pas l'apanage du milieu rural, mais Stéphane, vous avez une spécialité sur les addictions, notamment à la drogue. Alors, j'imagine l'isolement géographique, on parle beaucoup peut-être de consommation de substances illicites, d'alcool, etc. Il y a aussi ces phénomènes-là en milieu rural.
Ah oui, ce phénomène des addictions alcool stupéfiant, il est partout. Il est en milieu rural comme en oui, ville. Oui. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est souvent des facteurs aggravants. Mmh. Alors déjà, c'est un facteur aggravant sur la qualification pénale, mais c'est un facteur aggravant sur la commission des violences et sur la gravité des violences. Mmh. Donc oui, c'est une évidence. Les stupéfiants et l'alcool sont des circonstances aggravantes tant dans le passage aux actes que sur la qualification pénale.
On pourrait encore tant en dire, mais le temps file et l'émission est déjà en train de se terminer. Je vais vous laisser la parole une dernière fois si vous voulez conclure, rajouter des choses qu'on n'aurait pas pu évoquer dans cette émission. Et on aura malheureusement peut-être l'occasion de revenir sur ces sujets dans d'autres lorgnettes. Sébastien.
Alors nous, je voulais parler d'un super dispositif qu'on a, qui s'appelle le téléphone grave danger. C'est un dispositif qui est mis en place par le parquet avec nos services. C'est un dispositif de protection pour les femmes victimes de violences conjugales et victimes de viol. Ce dispositif, c'est un téléphone lambda, un smartphone qu'on remet aux victimes et qui est géolocalisable directement par les services de gendarmerie ou de police. Voilà. On en a 55 à demeure. Et on en a mis à peu près, parce que ça tourne, hein, on en met, on en reprend. On en a mis à peu près 70, on en a remis 70 l'année dernière. Voilà. Donc c'est un dispositif qui marche bien parce qu'on peut l'actionner assez facilement et ça fait venir les services de gendarmerie sur le lieu du dispositif. Donc on peut être au supermarché, à la maison, au cinéma. Si on voit son agresseur et qu'il vient en étant agressif, on peut le déclencher et c'est plutôt efficace.
Très bien, avec tous les systèmes, le 17 évidemment, les dépôts de plaintes, etc. Donc c'est un outil effectivement dont on parle de plus en plus. La MPF, vous voulez rajouter quelque chose? Non.
Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Émilie tout à l'heure lorsqu'elle a évoqué l'application Ma Sécurité. C'est vrai que c'est quelque chose qui est génial, le fait d'avoir un outil numérique, parce que c'est quelque chose qu'on a dans la poche, qu'on a quasiment tous, pour pas dire tous, et on sait très bien que aussi lorsqu'on est victime, on a cette honte de se montrer, d'aller à la rencontre des professionnels, qu'ils soient associatifs ou gendarmiques. On a cette honte de se montrer à visage découvert. Et des fois même, on ne sait pas auprès de qui s'adresser. Donc il y a cet outil dématérialisé qui est l'application Ma Sécurité et qui permet à n'importe quel moment du jour et de la nuit de pouvoir, en sécurité, lorsque parfois même son bourreau est à côté et dort, minuit, 2h du matin, on prend son smartphone et on peut chatter avec un gendarme en temps réel. Donc vraiment, cette application Ma Sécurité, elle est magique et elle peut répondre à beaucoup de maux de notre société sur que faire lorsque je suis victime. Est-ce que je suis victime? Oui. Eh bien, que faire? L'application Ma Sécurité.
Et je rappelle aussi que l'affaire de violence sexiste sexuelle familiale est l'affaire de tous. Ne baissons pas, ne fermons pas les yeux sur ce que l'on peut voir dans notre entourage. Merci à tous. Donc,
merci,
je reprends
merci
les noms vite fait. Nous sommes très en retard. Émilie Denecher et Stéphane Bénard, donc de la Maison de Protection des Familles de Romorantin, et Edith Delion et Sébastien Acli de l'association France Victimes 41. Merci à vous quatre d'être venus. Tout de suite, c'est toujours donc le journal de bord d'un élu local, Nicolas Orgelet, et Gaëlle Bernard, donc, qui interroge toujours un troisième épisode avec Delphine Benassi à 18h. Ce sera la Rock Setlist avec l'ami Christophe. Merci et bonne soirée sur Studio ZEF. À bientôt.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 106. Culture, égalité et transition. Avec notre invité Delphine Benassi. C'est parti! Bonjour Nicolas.
Salut Kevin.
Nicolas, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir à nouveau Delphine Benassi. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Delphine, t'es vice-présidente de région, c'est ça?
Oui.
À la culture et à la coopération internationale.
Exactement.
Tout à fait. Et on a déjà fait un épisode ensemble.
Oui.
Et on a utilisé un terme que moi, j'ai rien compris, c'est le CPCC. Et je crois que Nicolas a une question pour toi.
Oui, non, mais c'est...
En lien avec le
CPCC. Si on fait le lien avec l'épisode précédent, tu nous as un peu dit ce que tu voulais porter dans ta feuille de route culturelle, notamment les questions de transition, les questions d'égalité femmes-hommes, les questions de soutien à la création de jeunesse. Et en fait, je me pose la question... Comment, quand tu veux travailler sur l'égalité femmes-hommes, par exemple, ou sur les transitions écologiques de la culture, tu ne tombes pas à côté dans les propositions que tu fais, tu t'assures que ça correspond à un besoin réel des artistes ou du monde culturel dans son ensemble, que les propositions que tu fais ne sont pas à côté de la plaque par rapport à la réalité de terrain, quoi.
Oui, alors effectivement, pour compléter en fait, ce qui est porté dans la feuille de route culture, il y a la méthode, effectivement. C'est comment on porte ces enjeux, ces priorités-là avec les acteurs artistiques et culturels. Et donc la méthode, c'est la coopération. Et donc pour aborder ces enjeux et mettre en œuvre des actions qui sont, comme tu le dis, adaptées aux besoins, on réunit l'ensemble des acteurs culturels au sein d'une instance qui s'appelle la Conférence permanente de coopération pour la culture, la CPCC.
Ah, c'est beau comme nom.
Donc, c'est l'ensemble des filières ou des esthétiques qui sont représentées au sein de cette conférence. Donc, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, livre, art visuel. Okay. C'est aussi l'occasion de réunir les... collectivités locales, donc qui choisissent ou pas de prendre la compétence culture, donc les communes, les communautés de communes, les départements, et l'État.
Est-ce que n'importe quelle collectivité peut choisir de prendre la culture dans ses compétences ?
Voilà, c'est une compétence qui est... c'est pas une compétence obligatoire à un niveau de pouvoir public, c'est une compétence partagée que chacun choisit s'approprier et choisit de mettre des moyens, voilà, ou pas. Et il y a aussi une dimension que je souhaite qu'on travaille au sein de cette CPCC, c'est comment aussi on inclut des citoyens, enfin des habitants en fait, qui ne sont pas des experts de la culture, mais qui viennent apporter aussi leur regard sur, okay, sur ces enjeux et ces priorités.
Et alors concrètement, ça se passe comment ?
Comment tu fais ça ?
Et donc la CPCC, elle se réunit une fois par an en format plénier. Donc tout le monde se réunit. Et c'est l'occasion de restituer en fait à tout le monde les travaux qui ont été menés tout au long de l'année dans des groupes de travail thématiques. Donc cette CPCC, nouvelle formule en fait, hein, puisqu'elle a été créée dans le mandat précédent et donc... révisé sous ce format-là, là, dans le mandat en cours, avec ces groupes de travail, ouais, okay, en fait, qui permettent de s'approprier collectivement un certain nombre de sujets. Donc, les premiers groupes de travail qui ont été mis en place l'année dernière, c'était sur l'égalité femmes-hommes et sur la transition écologique. Donc, sur l'égalité, c'était co-animé avec le collectif HF. Le collectif hommes-femmes, voilà, qui travaille pour permettre une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le secteur des arts et de la culture.
Tu peux nous donner une ou deux propositions que vous allez mettre en place qui sont sortis de ce groupe de travail?
En fait, l'idée, c'était qu'il y ait une réflexion et des préconisations sur des égaconditionnalités qui pourraient être intégrées dans les dispositifs régionaux.
Des égaconditionnalités,
voilà. Donc c'est une façon de soutenir les acteurs artistiques et culturels qui prennent en compte cette question de l'égalité et qui favorisent l'égalité.
Tu peux me donner un exemple? Si moi, par exemple, je construisais un projet culturel, je porte un projet de théâtre dans mon village et je demande des subventions à la région, quelles égaconditionnalités peuvent m'être demandées? Est-ce que ça...
Alors, on a des préconisations, on est en train de les travailler pour les intégrer, mais le but, c'est que dans nos soutiens, on vienne...
majorer.
Rééquilibrer en fait l'existant en matière d'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire, il y a moins de femmes qui sont programmées, par exemple dans un lieu de spectacle, on demande à ce que dans la programmation, en fait, il y ait une égalité. Et après, il y a plusieurs façons de conditionner. Donc, soit on minore l'aide si cette égalité n'est pas atteinte, donc c'est un malus, soit on bonifie, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de travailler, mais c'est ce type de... Mais donc c'est sur la programmation, ça peut être aussi regarder la gouvernance des structures, est-ce que dans l'équipe de direction, en fait, on est à l'égalité ou pas, parce que souvent dans le secteur culturel, il y a des femmes dans les équipes administratives, mais pas la direction.
Il y a d'autres constats comme ça que vous avez fait justement tu vois des défaillances?
On a une attention par exemple dans les recrutements qu'on fait collectivement avec les autres partenaires publics, les directions de scène nationale, de CDN, de SMAC, de scène de musique actuelle, par exemple. En fait, on a aujourd'hui une grande attention à ce qui est cet équilibre dans la région. Il y a encore peu de temps, on avait une seule femme à la tête ou deux à la tête de lieux labellisés dans la région sur
CDM,
une vingtaine.
CDM, conservatoire de musique?
Non, c'est centre dramatique
national.
Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs recrutements l'an dernier, et on a davantage de femmes qui sont à la direction de ces lieux, dont par exemple l'Hectare à Vendôme,
d'accord,
qui est aujourd'hui dirigé par Audrey Mattel. Donc pour l'égalité. Et puis un autre groupe de travail qui a été lancé l'année dernière, c'est le groupe de travail sur la transition écologique. Donc c'est réfléchir ensemble à la façon dont on va réduire notre empreinte écologique, qu'on soit un lieu, un festival, une compagnie. C'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes leviers, on a les mêmes enjeux, mais pas forcément les mêmes leviers. Quand on est un lieu, en fait, l'empreinte carbone la plus importante, c'est celle du public quand il vient assister. Donc comment on fait pour...
Le fait que tout le monde vienne en voiture individuelle pour venir à un
festival.
Ah oui, d'accord, j'imaginais que c'était sur place. Ok.
Oui, c'est ça.
C'est le déplacement?
Oui, c'est le déplacement du public.
Ok.
Donc, comment on réfléchit à favoriser le covoiturage ou à mettre en place éventuellement des navettes ou favoriser l'usage du train? Mais le train, il faut travailler sur les horaires, faire en sorte qu'on puisse repartir le soir...
Parce que finalement, tu peux changer toutes tes ampoules pour mettre des LED, mais ça ne va pas changer ton impact carbone si tout le monde vient en voiture.
Voilà, exactement. Donc c'est important aussi, le matériel qui est l'isolation des lieux, le matériel utilisé, évidemment, ça, c'est un impact. Là, quand on crée des décors aussi, c'est comment on fait en sorte de favoriser le réemploi aussi, par exemple, de ne pas jeter... tout un décor, mais faire en sorte qu'il puisse être réutilisé soit par la même compagnie, soit par d'autres. Enfin voilà, et c'est peut-être aussi créer des ressourceries de matériel et d'équipement, mais aussi de matériel.
Mais ouais, c'est vrai que j'ai un exemple sur Blois, par exemple. Donc ça fait des années qu'on vote contre ou qu'on s'abstient concernant la patinoire parce que elle, c'est une dépense énergétique faramineuse pour faire de la glace à des moments où c'est pas naturel d'en avoir. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu le retour qui est assez juste de me dire oui, vous vous critiquez toujours pour le sport le fait qu'on fasse une patinoire l'hiver, mais pour BD Boom ou pour des événements culturels, des rendez-vous de l'histoire ou autres à Blois, bah, quand vous déployez les tentes dehors pour pouvoir mettre les livres, etc., il faut chauffer ces espaces-là dans des tentes non isolées. Et c'est une dépense énergétique à laquelle on ne pense pas, mais qui est faramineuse. D'où d'ailleurs le projet de rénovation de la scène nationale et des congrès, quoi. Où là, typiquement, on est dans un impact climat de la culture auquel, si personne t'en parle, tu n'y fais même pas attention, tu n'y penses juste pas.
Tu parles de la scène nationale, tu parles de la Lograin, c'est
la,
ça
la oui, Lograin, oui, bah, oui. Voilà.
Parce que oui, les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y a une rénovation.
Oui, oui, la Lograin à Blois doit être rénovée. Ça fait des années qu'on en parle, mais c'est assez long parce qu'entre ce qu'il faut faire et les budgets qu'on a, et voilà, et les soutiens de la région, de l'État, tout ça est long. Et il faut que ça réponde aux besoins réels des artistes et d'accueil et d'ouverture sur la ville, qui fait partie un peu, quand tu disais, ouvrir la culture au plus grand nombre. Voilà, ça sert aussi à ça. Mais c'est vrai qu'en termes de climat, d'impact énergétique, à chaque fois qu'on déplie ces grandes tentes pour accueillir des événements, bah, faut les chauffer, et finalement, ça a un impact encore plus fort que celui de la patinoire dont on parle beaucoup, nous écologistes, régulièrement. Enfin bon, voilà, c'est un exemple concret sur Blois, mais tu en as sans doute d'autres, toi. Ou il y a sans doute d'autres choses que tu portes, je sais pas, sur les transitions, est-ce qu'il y a des choses un peu déjà qui ont bougé sur la... suite à ce groupe de travail transition que vous portez dans la culture ?
Oui, ce qu'on va travailler là, cette année, donc deuxième saison, en fait, c'est d'essayer de créer un écosystème régional pour accompagner les acteurs, donc, dans leur diversité, à s'engager dans des démarches de transition. Donc ça veut dire leur donner les moyens de faire un état des lieux déjà de leur pratique, pour voir quelle est leur empreinte aujourd'hui, quels sont leurs leviers pour réduire cette empreinte, et mettre en place des actions concrètes pour la réduire. Donc il faut qu'ils... Voilà, c'est difficile de le faire tout seul. En général, il faut être accompagné. Donc c'est avoir des acteurs formés pour cet accompagnement, faire ce diagnostic et ensuite accompagner à l'élaboration de plans d'action et la mise en œuvre de plans d'action. Donc on travaille ça collectivement avec un certain nombre d'acteurs pour pouvoir créer ces conditions favorables à la transition du secteur culturel dans notre région. Et puis on a aussi quand même la COP régionale sur laquelle on peut s'appuyer. Cette COP qui permet aux acteurs économiques, associatifs, aux citoyens de se mobiliser ensemble pour mener des actions aussi de réduction de l'empreinte écologique.
Et d'avoir des financements et l'accompagnement avec, de la région.
Voilà, avec le soutien de la région. Donc il y a une coalition des festivals qui est créée, qui est animée par Terre du Son depuis plusieurs années déjà. Qui réfléchit à notamment la mutualisation de matériel pour
réduire
à l'échelle des grands événements, en fait. Donc ça a commencé par les événements et les festivals culturels, et aujourd'hui il y a des événements sportifs qui s'associent à cette réflexion.
Tu as des exemples, encore une fois, par exemple les éco-cups, est-ce qu'ils arrivent à les mutualiser, ou est-ce qu'il y a des choses comme ça qui
voilà, c'est un des sujets, la vaisselle en général, en fait, les éco-cups, donc là l'idée c'est de plus en produire, parce que tout le monde, parce qu'il y en a énormément,
oui.
Donc c'est plutôt de voir comment on mutualise l'existant, et puis il y a aussi la question de quand on utilise de la vaisselle on dure, en fait, d'avoir une machine avec de la vaisselle qui permette de la nettoyer et d'avoir un outil clé en main qui puisse se déplacer et prêter à plusieurs associations qui en auraient besoin sur un même territoire.
Donc vous êtes innovant et il se passe plein de trucs.
Il va falloir penser à tout ça pour Bourges, parce que Bourges a été sélectionné. T'allais faire cette
compétition. Ouais, pareil. T'es balèze. Hein.
Ah, ouais.
Bon, maintenant, donc, Bourges, on lit dans les pensées de l'autre.
Ouais, c'est ça. Bourges a été sélectionné pour devenir la capitale européenne de la culture en
2028.
Bravo. Hein.
Et bravo. Oh, et
ouais, parce que on
c'est
est
pas
très
gagné,
fiers.
Y a pas comme c'est une ville de
100 000, 100 000. Ouais, moins de 100 000.
Et beaucoup de gens y croyaient pas trop à ce que ça soit Bourges qui soit lauréat. Et, ça a été
et du coup, on va en parler dans le prochain épisode. Nicolas, je me sens parti là. T'as envie d'en savoir plus, mais on va en parler dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Delphine.
Merci à vous.
Merci.
Salut. Allez, à la prochaine.
Salut Nico.
Salut Gaëlle.
On peut écouter les épisodes sur les applis de podcast. Il y a plus de 100 épisodes. Vous pouvez l'écouter sur Studio Zef 91.1. Dans l'émission La Lorgnette. Retourne-moi et Clémentine. Et aussi écouter les épisodes sur Blois Capital. Merci à tous ceux qui nous écoutent.
Merci à Clément et à Jules. Et si vous êtes sur Studio Zef tout de suite, c'est les Roxettes.